Presque un an après la dissolution surprise de l'Assemblée nationale et 6 mois après la première motion de censure votée en 60 ans, la situation de la France ne s'est pas améliorée et c'est bien le pourrissement attendu au lendemain du deuxième tour, avec une représentation nationale sans majorité et un président voulant toujours jouer son rôle, que l'on observe depuis. Le conclave sur les retraites ne donne rien, le Premier ministre est empêtré dans l'affaire des violences de Beltrame. Et les débats de l'Assemblée nationale empestent la mort, alors que se tient le débat sur l'euthanasie, dans un contexte où les contraintes budgétaires donnent le sentiment qu'évacuer une partie des usagers serait encore le moyen le plus rapide de sauver le système social, dans la dignité bien sûr. En effet, déjà le spectre du budget de l'an prochain toque sinistrement à la porte, alors que Moody's a renoncé à noter la France le mois dernier, et c'est dans une semaine que Standard & Poor's doit donner sa propre note, alors qu'elle avait noté en février dernier la dette française AA- avec une perspective négative. Alors que l'ultra-gauche est de plus en plus active dans le pays et risque de s'énerver fortement si la procédure de dissolution de la Jeune Garde arrive à son terme, et que d'autre part un rapport alarmant est sorti sur le rôle de l'organisation islamiste des Frères musulmans en France, les signaux de déstabilisation s'illuminent en série. Où en sommes-nous de la nouvelle révolution française? Bonsoir, je suis Philippe Fabry. Nous sommes le 23 mai 2025. Il est 21h53. Les retards deviennent catastrophiques. Non, non, bête du Gévaudan, nous ne l'annoncerons jamais pour 21h45. C'est comme ça. C'est comme ça. Déjà que vous n'êtes pas particulièrement nombreux en ce début d'émission. Si en plus on est arrêté à l'heure, vous auriez été encore moins nombreux. Donc c'est ça aussi. Faut arriver à l'heure. Si vous arrivez à l'heure, on commencera à l'heure.
Ouais,
Sommes en compagnie.
c'est la unwritten rule. Tu sais, en fait, on lance pas tant qu'il y a pas un certain nombre et les gens ne sont juste pas là. Nous, on est là à 30 tout le temps.
C'est ça, c'est ça. Et du coup, ça recule, ça recule. Comment veux-tu? Ce soir, donc, une émission particulière. Vous allez voir, on va s'amuser un petit peu parce que j'ai joué ceux qui sont sur le Telegram, nos chers souscripteurs que nous remercions d'ailleurs. Le savent parce qu'ils ont forcément toujours un peu l'avant-première des découvertes ou des choses amusantes que je peux faire. Mais c'est tellement intéressant que ça me paraît important de vous en parler ce soir. Avant de le faire, Léo, je te laisse faire le petit point sur le congrès du 15 juin.
Je m'y attendais pas, mais oui. Attends, je vais voir. Je sais pas. Le problème, c'est que sur le truc où je peux l'afficher, je pense qu'on verra pas ma tête. Est-ce
Alors,
qu'on...
pendant ce temps, je rappelle que donc je donne deux conférences le 15 juin. Il y en aura une autre d'un certain expatrié québécois qui sera là également. Ça sera l'occasion de tous se rencontrer. C'est dans un lieu sympa, il y aura à manger. Nous avons passé le 20 mai, donc maintenant l'inscription est à 70 euros, avec toujours déjeuner et collation inclus néanmoins. Et ça devrait être une journée très agréable. C'est un premier test et on verra ensuite si on peut réorganiser ce genre de rencontre à échéance régulière, n'est-ce pas, mon cher Léo?
On vous avait prévenu que le prix passerait à 70. C'est encore pas grand-chose, effectivement. Donc, il y aura peut-être une augmentation du prix qu'on n'a pas annoncée, qui peut tomber à n'importe quel moment.
Et l'occasion de remercier encore les gens qui nous aident à organiser ce genre d'événements. Je pense qu'on a tous les gens habituels, hein, notamment Hiruma, mais avec un rôle extrêmement particulier d'organisateur puissant, Monsieur A,
Ah, mais monsieur A, moi, me...
qui a été impérial sur cette organisation.
Monsieur A me fait extrêmement peur. C'est-à-dire que si un jour quelqu'un commandite mon assassinat, je préférerais que ce soit pas Monsieur A. Parce que si c'est Monsieur A, je sais que je suis foutu. Donc,
Il aura une hall là le 15 juin, Monsieur
ça va être Batman, ils vont se dire, mais il est où, Monsieur A? Il est où? Tais-toi, il n'est pas loin.
Alors, on va entrer maintenant dans le vif du sujet. Donc, cette émission, ça fait un moment que j'ai pas fait le point révolution. Bon, j'en ai parlé, j'ai fait une émission. La dernière émission n'était pas si longtemps, je crois. Ça devait être il y a un mois, la dernière émission sur la France. Mais en fait, je voulais en faire une autre parce que justement, ben, j'essaie de faire un point au moins mensuellement sur la question. Notamment parce qu'il y a un certain nombre d'actualités qui se déploient. Vous avez vu les alertes du FMI sur la dette. On commence à entendre de plus en plus de gens dire que ça pourrait aller très très vite, qu'on paye plus. Je vous rappelle que notamment il y a un certain nombre d'institutions financières, si on était encore dégradé, qui quasi automatiquement ne s'intéresseraient plus à la dette française, donc on prendrait un coup d'un coup. Donc l'idée d'accélération subite de la crise. Le côté un peu margin call, assez clairement, c'est en train de se déployer. À côté de ça, il y a des choses qui ont avancé. Politiquement, il y a Bruno Retailleau qui a gagné haut la main. Il a écrasé Laurent Wauquiez à 75-25 pour la présidence des Républicains. C'est important parce que les Républicains n'avaient plus de présidence forte, en fait, depuis qu'il y avait eu le coup d'État interne excusez-moi, le coup d'État interne. Avec le hockey historionomique, je ne l'avais jamais fait. Le coup d'État, j'espère que je ne vais pas avoir le hockey toute la soirée. Ça m'est jamais arrivé, ça serait pénible. Le coup d'État interne donc de Ciotti l'année dernière, il y a le parti manquait un petit peu de leadership. Donc ça permet de restaurer ça. Et naturellement, vu que c'est Retailleau qui est de toute façon la figure de premier plan au ministère de l'Intérieur des Républicains, ça peut rajouter une fragilité dans le gouvernement. Et en tout cas, une capacité de pression à exercer de ce côté-là. Je ne sais pas si ça a joué, mais il a effectivement lancé la procédure de dissolution de la Jeune Garde, vous savez, le mouvement Antifa dont est issu Raphaël Arnaud, le député La France Insoumise. C'est extrêmement important parce que, il faut se rendre compte que depuis quelques mois, depuis l'année dernière en fait, on voit une recrudescence importante des actions de l'ultra-gauche, assez sérieusement. Alors c'est multiforme, c'est protéiforme, c'est pas forcément facile à rattacher, c'est difficile de trouver des chiffres notamment là-dessus. Mais vous vous souviendrez que récemment, il y a eu les attaques contre les prisons et les gardiens de prison. Il y a eu des attaques aussi plus violentes que d'habitude entre des syndicats d'étudiants, de la part de syndicats d'ultra-gauche. Et il n'est pas du tout invraisemblable que si la Jeune Garde venait à être dissoute, eh bien, ça entraînerait de nouvelles vagues d'attaques. Ce d'autant plus que, de manière générale, il y a quand même un durcissement de la gauche depuis qu'elle fait sa mutation, depuis le 7 octobre 2023, à propos de la question palestinienne. Et donc, que de cette espèce d'intersectionnalité des luttes, on est vraiment en train de basculer vers ce qu'on imaginait un clivage, c'est-à-dire une gauche véritablement, on va dire, islamo-indigéniste. Et donc, si vous associez ça effectivement à la question de l'islam politique qui a retrouvé une actualité ces jours-ci, même si quand je vois les solutions qui sont prescrites pour. Je viens de voir ça s'afficher sur Twitter, ça m'a fait halluciner. Les solutions pour lutter contre l'islamisme, d'après le rapport, c'est développer l'islamologie, connaître les aspirations de la population musulmane, modifier la règle funéraire, enseigner l'arabe à l'école publique et reconnaître un État palestinien aux côtés d'Israël. Donc en gros, d'après ce que je comprends, le meilleur moyen de lutter contre les frères musulmans, c'est de donner aux frères musulmans ce qu'ils veulent. C'est un peu la stratégie. Donc ça paraît quand même assez mal embouché, mais en même temps, l'extrême gauche n'a cessé de se plaindre. C'est cette semaine justement que, en gros, on mettait une cible dans le dos des musulmans. Donc, la convergence, il peut y avoir une convergence justement dans cette ultra-gauche entre l'ultra-gauche classique, on va dire, de la Jeune Garde, et aussi peut-être une partie de ce mouvement des frères musulmans si jamais ils se sentaient menacés. Bon, d'après les mesures qui seraient prises, on n'en est pas encore là. Emmanuel Macron, comme sur beaucoup de sujets, se contente d'atermoyer, c'est ce qu'il a fait au terme de son conseil de défense sur la question. De la même manière, il y a eu un conseil de défense sur l'Algérie il y a quelques semaines qui n'a absolument rien donné, alors qu'on a encore eu des gens qui ont été expulsés. Mais vous voyez toutes ces tensions qui apparaissent. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que, en fait, j'ai réécouté ce que je vous avais dit l'année dernière au lendemain du deuxième tour, que j'avais intitulé justement l'émission sur le pourrissement, c'est-à-dire le fait que On n'avait pas de décision claire. On n'avait pas, par exemple, une victoire, ce qui était la seule victoire véritablement anticipable, d'après les sondages, du Rassemblement national et de la droite, qui aurait peut-être à ce moment-là provoqué une réaction de gauche, et on aurait eu un scénario un peu façon, on va dire, commune 1871. Et j'avais pas mal parlé de l'évolution possible vers un scénario, disons, à l'espagnol, façon guerre d'Espagne 1936, mais avant ça même le pourrissement des années qui ont précédé, 1936, entre 1931 et 1936. Et j'avais mentionné la possibilité que ce soit ce qui arriverait si jamais il y avait effectivement un gouvernement de nouveau Front Populaire qui se constituait. Il n'y a pas de gouvernement de nouveau Front Populaire qui s'est constitué. Mais c'est vrai que toute cette montée en tension de l'ultra-gauche dans la rue, ce retour de la violence politique, en tout cas au plan activiste, c'est pas de la violence de masse encore, mais ce sont des actions, ça donne une idée où ça ressemble. Ça donne une idée de ce qu'on aurait eu, je pense, comme pu avoir comme violence politique si on avait eu un gouvernement NFP, parce que je pense que ça aurait sonné comme une sorte d'autorisation pour beaucoup de gens. C'est typiquement ce qu'on a vu dans les autres phénomènes révolutionnaires, hein, c'est comme ça que ça se passe. Mais on n'a pas eu de gouvernement NFP, mais c'est là quand même, mais ça donne une idée sur le fait que le ressort est là, qu'il existe, qui peut encore s'activer si jamais il y avait un basculement électoral du pays, s'il y avait une nouvelle dissolution, par exemple, l'arrivée d'un gouvernement de gauche. Mais voilà, j'ai du mal à voir plus clair que ça. Alors, pourquoi est-ce que je fais cette intro? Parce que, bien sûr, ce qu'il y a en arrière-plan de tout ce que je dis, c'est que, comme d'habitude, je me fonde sur mes modèles historiques de Révolution nationale. Et donc j'ai voulu faire cette émission quand j'ai voulu la préparer à la base. J'ai voulu faire ce que je refais chaque fois que je remets quelque chose sur le métier avec quand je reviens 6 mois après qu'il s'est passé des trucs et que donc je me dis ça peut nous aider à interpréter, à mieux comprendre où est-ce qu'on en est. J'ai tendance à reprendre justement tous les exemples les plus proches que je connais de Révolution nationale pour aller voir si ben, ça permet justement de donner des clés supplémentaires d'interprétation un petit peu plus dans le détail pour savoir mieux où on en est. Et donc j'ai commencé à faire ça, on va dire à la main, comme je fais d'habitude. Et j'ai commencé à m'essayer pour gagner du temps, de poser des questions rapidement à Grok. Par exemple, pour éviter d'aller passer encore des heures à aller lire des articles d'encyclopédie ou sur Wikipédia ou de me replonger dans tel ou tel bouquin pour gagner du temps et voir où est-ce que je devais aller chercher. Par exemple, j'ai posé à Grok la question de savoir est-ce que tu peux me donner, par exemple, les 10 dates importantes du Biennio Rosso italien. Vous savez, le Biennio Rosso, c'est 1919-1920, 2 années, on va dire, un peu rouges, justement, avec des grèves, des assassinats politiques, etc., des occupations d'usines, qui ont été des années assez révolutionnaires et qui ont ensuite amené l'arrivée du fascisme, et qui sont équivalents à ce qui s'est passé en Allemagne à la même époque avec la République des Conseils de Bavière, la révolte spartakiste, etc. Et donc mon idée, c'était de gagner du temps là-dessus. Sauf que, juste après avoir fait ça, j'ai posé quelques questions supplémentaires pour essayer d'avoir des précisions sur un certain nombre d'événements. Et j'ai réfléchi sur comment est-ce que je pouvais utiliser Grok. En fait, c'est une question que je me pose depuis un moment pour faire de l'historionomie plus vite. Parce que, comme vous le savez, quand on va chercher à faire de l'analyse historionomique, comme je disais, on va aller rechercher en détail sur telle ou telle période ou regarder sous tel ou tel angle. Des fois, c'est sous l'angle économique. Hein, j'ai eu fait des émissions sur, par exemple, les conséquences économiques de la Révolution. J'ai eu fait des émissions sur les conséquences sur le sujet en particulier du changement des élites, hein, donc sur des questions plus sociologiques de modification des élites. Et donc à chaque fois, ça demande quand même pas mal de travail parce qu'il faut aller reprendre tous les exemples, faire des recherches particulières sur le dit aspect et le comparer. Et souvent, ça prend du temps parce qu'on est obligé c'est au fur et à mesure qu'on le fait qu'on comprend, donc on doit tout reprendre plusieurs fois pour arriver à trouver un résultat. Donc forcément, c'est très long. Jusqu'ici, je n'arrivais pas à utiliser Grok pour gagner du temps là-dessus. J'ai fini par trouver un moyen de le faire. Et en fait, donc ça m'a permis, et je vais terminer cette introduction comme ça m'a permis de finir par trouver comment arriver à faire travailler efficacement Grok sur la question, c'est-à-dire comment faire faire de l'historionomie à Grok. Je vais vous montrer comment, en lui faisant tout simplement admettre en fait les concepts historonomiques, mais à la base, voilà. Et en utilisant ça, je lui ai fait étudier tout un tas d'exemples. Et à la fin, j'ai utilisé le travail que j'avais fait avec lui pendant une bonne partie de la journée pour me donner pour faire des projections en fait. Et donc, ce sont les projections de Grok que je vais vous présenter tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai fait cette émission intitulée Grok et la nouvelle révolution française, parce que j'ai trouvé ça intéressant. Et je pense que, alors c'est le premier exercice que je faisais, je pense que ça va vous intéresser la façon dont on le fait, parce que en plus, l'intérêt, c'est que ben, maintenant, comme vous connaissez un petit peu l'historonomie, ce que je raconte, vous pouvez aller même fouiller dans des anciennes vidéos et voir et le faire vous-même, en fait. L'idée, c'est que ce soit ludique pour faire vos propres projections. Et m'en parler de ce que vous trouvez en commentaire ou même sur le canal Telegram pour ceux qui nous soutiennent. Donc j'ai demandé à Léo de charger la conversation parce que vous savez que sur Grok, quand c'est comme ChatGPT, vous pouvez envoyer le lien de votre discussion à quelqu'un pour qu'il voit tout ce que vous avez raconté. Et donc voici la discussion que j'ai eue avec lui. Alors on va passer les premières questions parce qu'en fait c'est ce que je vous disais, c'est quand j'ai commencé à lui poser des questions. Sur le Bionio Rosso, etc. Et en fait, en redescendant, vous allez voir que on arrive, voilà, à cette question-là, qui est. Alors, j'en profite, mon cher Léo, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir laissé tomber Skype, mais j'ai l'impression que le retour est beaucoup plus rapide. Donc, du coup, je peux presque suivre en direct ce que tu fais. Et ça, c'est bien. Ça va être plus simple. Voilà comment je lui pose la question. En fait, je lui ai dit, je vais te demander de considérer la période autour de l'ouverture du Biennio Rosso, parce que j'étais parti sur le Biennio Rosso, donc je reste là-dessus. Autour de l'ouverture du Biennio Rosso et de l'arrivée au pouvoir de Mussolini, comme une révolution similaire à la révolution allemande 1918-1923 et la révolution espagnole 1931-1936. Sur cette base, je veux que tu m'établisses le parallèle historique le plus strict possible entre les 10 événements les plus importants de chacune de ces trois périodes afin d'établir un modèle chronologique commun. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je ne cherche plus, et ce que je faisais avant. Avant, j'essayais de lui expliquer les concepts historonomiques et ensuite de lui dire, vas-y, utilise-le, applique-le. Ça me donnait, c'était nul, c'était pas intéressant. En particulier, je pense, parce que comme il se fonde sur tout ce qu'il trouve sur Internet, des articles, etc., sa vision des événements et des choses est une vision qui est marqué par le consensus historiographique, par exemple. Et le problème, par exemple, pour la révolution nationale italienne, qui commence donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale, pardon, c'est que personne ne parle de révolution italienne. Ça ne s'appelle pas la révolution italienne. Et même vous avez beaucoup d'historiens qui disent qu'il n'y a pas eu de révolution italienne parce qu'elle a été empêchée par le fascisme. Ce qui n'a pas vraiment de sens, puisque d'une certaine manière, il y a la révolution. On parle de révolution allemande alors que ça s'est aussi terminé par le nazisme, si vous voulez. Donc ça n'a pas grand sens. Et au contraire, vous allez en fait faire deux points de vue différents sur deux séries d'événements qui sont identiques, mais vous allez leur donner une interprétation différente, un nom différent. Et donc, vous ne pouvez pas compter d'emblée sur ce que le fait que votre IA, elle passe là-dessus. Donc, ce type de formulation, apparemment, ça fonctionne bien. C'est-à-dire que il faut lui demander a priori d'admettre qu'un certain nombre de choses appartiennent à la même catégorie, sans lui poser plus de questions là, et sur cette base-là, de chercher dans un certain sens. C'est ce que j'ai fait. Et ce qui est très intéressant, c'est que en dessous, Grok m'a sorti le tableau que Léo va vous faire défiler maintenant, dans lequel, alors j'aurais pu lui demander peut-être plus d'étapes, probablement moins. Je pense que plus je lui demanderai d'étapes, plus il finirait par me donner des choses qui sont un peu forcées, disons, entrées au chausse-pied. Donc c'était pas l'intérêt ça. L'intérêt, c'était de gagner relativement du temps. Et si vous voyez ce qu'il y a là, c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, ça retombe. Vous vous souviendrez de cette vieille vidéo qu'il y avait eu sur Radio Athéna, mais je pense que j'avais repris le truc aussi. C'était dans un article que j'avais créé en avril 2020, justement, sur comment dire, les scénarios de chute de la Ve République. J'avais fait un tableau aussi pour modéliser la révolution. Il n'y avait pas autant d'étapes, il n'y en avait pas une dizaine. Mais ça ressemblait à ça. Et en fait, beaucoup d'étapes que j'avais sélectionnées correspondaient à celles que Grok m'a retrouvées tout seul. Donc ça veut dire que Grok, avec le petit prompt que j'ai fait, c'était pas un prompt très compliqué, en lui disant juste essaie de m'établir un parallèle entre ça et ça, simplement en partant du principe que c'est faisable, en fait, c'est ça l'idée. Eh bien, il me le fait. Il me l'a fait. Et alors, on pourrait dire, oui, mais forcément, il le fait parce qu'on lui demande de le faire. Vous verrez par la suite, on va le montrer, que quand il ne le trouve pas, il dit qu'il ne trouve pas. Que pour lui, ça compte pas. Et d'ailleurs, on verra que j'ai été obligé de trouver des chemins pour le lui faire voir, malgré tout, comme moi, je pense que ça y est quand même, mais que j'ai parfaitement conscience que ça y est pas au même niveau que dans les autres. Bon, alors ça. En tout cas, alors, je ne vais pas vous faire toute la lecture de ce que ça donne, mais simplement, vous voyez, il y a la chute du régime précédent, l'établissement d'un nouveau régime, la radicalisation de la gauche, tentative de coup d'État de la droite. La façon dont c'est présenté, je trouve ça intéressant. Il y a certaines choses, je ne les avais pas vues exactement comme ça. Même si le putsch de Cap, je l'avais mis comme ça, comme tentative de coup d'État de la droite, dans le modèle que j'avais fait moi-même. Donc c'est très intéressant quand vous voyez sur un prompt aussi court l'IA qui vous refait ce que vous aviez fait vous. La crise économique, voilà, etc. Donc vous retrouvez à la fin avec un modèle de 10 étapes et dans lequel il vous montre qu'en fait vous trouvez la même chose dans la révolution allemande, la révolution espagnole, la révolution italienne. D'accord? Sur des périodes qui à chaque fois sont à peu près aussi longues. Hein. Donc on a des périodes sur de 4-5 ans. C'est ça aussi qui est intéressant parce que. À partir du moment où ensuite, moi, mon sujet à propos de ce qui se passe en France, c'est toujours de savoir qu'est-ce qui va se passer dans les années qui viennent. Il ne faut pas non plus que ce soit trop étendu. Donc il faut qu'on ait quand même, qu'on puisse envisager. Alors je sais que j'ai toujours un biais d'accélération, qu'on me reproche d'avoir dit que quelque chose se passerait l'année d'avant, que ça se passe l'année d'après, ou avec 2 ans de retard, etc. Bon, l'idée, c'est d'être dans la marge d'erreur. Et voilà, je trouvais que c'était un bon point de départ d'avoir cette périodicité-là pour voir ce qui doit en tout cas se passer. Et surtout, à partir du moment où vous voyez que dans la plupart des cas, vous êtes sur une plage de temps qui est aussi restreinte, ben vous pouvez vous dire que cette plage de temps elle-même a une force, on va dire, déterministe, historionomique, et que donc vous pouvez escompter que ce que vous attendez qu'il va se passer en France, ça se passe dans le même laps de temps, en fait. Bon. Le problème étant toujours de savoir quand est-ce qu'on commence effectivement. Mais ça, on va y revenir. Alors simplement pour que vous voyez, alors ce qui est très intéressant, c'est que non seulement il me balançait son tableau, mais ensuite il m'expliquait il m'expliquait son choix. Ça, c'est très intéressant. Alors juste, je précise, j'ai fait le test ensuite avec le modèle de l'impérialisme revanchard, mais on n'en parlera pas ce soir. Mais j'ai fait le test aussi sans utiliser Think. Vous savez, Think, c'est le petite aptitude que vous sélectionnez de Grok quand vous voulez qu'en particulier il développe et il réfléchisse. Mais donc pour l'autre, je ne l'ai pas utilisé. Pour celui-ci, je l'ai utilisé. J'ai eu l'impression que c'était à peu près aussi efficace dans les deux cas. Le seul truc intéressant dans Think, c'est que je voyais au fur et à mesure comment il réfléchissait. Mais voilà, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose. Donc ensuite, pour essayer d'aller plus loin et de voir s'il continuait à trouver tout seul, parce que à la base, moi je lui dis quoi? Je lui dis, essaie de me fabriquer un modèle avec ces trois exemples-là. C'est encore une étape de réflexion supplémentaire quand je lui dis, bah du coup, dans ce cas-là, est-ce que tu le trouves à appliquer le modèle? Vous voyez, c'est un progrès supplémentaire. Et donc c'est ce que j'ai fait avec la Révolution française. Alors toujours pareil, il faut que je lui donne les dates là-dessus. J'ai essayé plus tard aussi à le laisser choisir des trucs. J'ai réussi à lui faire identifier, par exemple, l'impérialisme revanchard au milieu d'une période de 50 ans qu'il a trouvé tout seul. Donc, il est capable de faire mieux que ça déjà. Mais bon, quand je l'ai fait à ce moment-là, je lui ai donné les dates. Donc, est-ce que tu peux je lui ai donné la date Révolution française, c'est toujours pareil. En gros, c'est du début de la Révolution jusqu'à la Terreur, on va dire. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu ce à quoi correspond en fait 1936 en Espagne et en Allemagne et en Italie, c'est le moment où justement la grande période de troubles communistes s'est terminée en fait. C'est-à-dire qu'après il n'y en a plus. Donc voilà, c'est assez équivalent. J'aurais pu mettre 1794 ou 1793, mais bon, c'était pas très très grave. Et vous voyez, il me l'a fait très très bien, de manière très intéressante. Alors, il y a des trucs avec lesquels j'étais pas forcément d'accord. Vous voyez, chute du régime précédent, est-ce que j'aurais mis 17 juillet 1789 vraiment pour la chute du régime? Je sais pas. Par contre, le fait de considérer établissement d'un nouveau régime avec la formation de l'Assemblée nationale, le serment du jeu de paume, ça, je trouve ça très intéressant. Enfin, je trouve ça normal, en fait, c'est la réalité. La fuite à Varennes, je suis pas d'accord qu'ils me le mettent dans cet ordre-là, parce que tentative de coup d'État de la droite, encore que, puisque malgré tout, j'ai pas pensé en le lisant la première fois, mais Louis XVI essayait d'aller à Montmédy pour prendre la tête de ses armées. Donc éventuellement, on peut considérer que c'est une tentative de coup d'État conservateur. Pourquoi pas, effectivement. Sur la radicalisation de la gauche, effectivement, l'insurrection et la chute de la monarchie, puisqu'ensuite, c'est la Convention nationale. Donc la Convention nationale, c'est effectivement le régime révolutionnaire, hein, c'est lui qui fera la terreur. Etc. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses extrêmement intéressantes dans la façon dont il l'utilise. En tout cas, il voit à peu près, encore une fois, sur le détail, je peux critiquer telle ou telle étape et pas être d'accord. Des fois, moi, il m'est arrivé de même pas être d'accord avec moi-même et d'hésiter sur certains. Mais franchement, c'est vraiment efficace, quoi. Alors, comme ça marchait pas mal, j'ai essayé de voir aussi d'associer ça avec la question de la révolution ukrainienne. Alors, vous savez pourquoi la révolution ukrainienne, ça m'intéresse beaucoup. J'ai compté là, on va dire 2013 ou 2018. Pourquoi? Parce que le Maïdan commence en 2013. Yanukovych part en février 2014. Et pourquoi est-ce que j'aime bien le cas ukrainien? J'en avais déjà parlé dans une émission. C'est parce que c'est un régime qui est très très similaire à ce qu'est la Constitution dans sa pratique, la Constitution de la Ve République, avec un président extrêmement fort, qu'une première réforme institutionnelle en 2004 avait tenté d'affaiblir. Elle avait tenté d'affaiblir le président et de renforcer la Rada, le Parlement ukrainien. Cette réforme avait été ensuite abrogée en 2010 par la Cour constitutionnelle ukrainienne, qui est un peu la botte de Yanukovych. Je rappelle, j'en avais parlé dans une émission précédente de tout ça, donc je ne le détaille pas. Mais du coup, une des réclamations des manifestants du Maïdan, c'était la remise en vigueur de cette réforme constitutionnelle de 2004 qui avait affaibli les pouvoirs du président. Donc il y avait vraiment quelque chose dans le régime en soi. Ce n'était pas juste virer Yanukovych parce qu'il était pro-russe. Sur la réforme institutionnelle, dans le Maïdan, il y avait une volonté, et qui était de revenir à la réforme 2004. Je trouve ça intéressant parce qu'en France, on a une réforme équivalente à la réforme 2004, c'est la réforme 2008, celle qui a introduit beaucoup plus de rôles de Parlement, beaucoup plus de contrôle des commissions, et notamment qui a élargi la capacité du Parlement dans le débat de construction de la loi, notamment en restreignant beaucoup la question des cavaliers législatifs. C'est-à-dire que désormais, on considérait que ce n'était pas que les choses n'étaient pas un cavalier législatif si elles avaient un lien, même indirect. Avant, il fallait un lien direct avec le sujet de la proposition de loi, enfin, du projet de loi. Désormais, un lien même indirect devait permettre de faire passer les réformes et donc de négocier par le Parlement les projets de loi. Vous savez que de facto, d'ailleurs, c'est ce que Gérard Larcher a reproché au Conseil constitutionnel, par les décisions du Conseil constitutionnel de, ça devait être janvier ou février 2024, par lesquelles le Conseil constitutionnel avait cassé en fait la loi immigration qui avait été votée, au motif qu'il y avait eu des cavaliers législatifs, et que ces cavaliers législatifs concernaient notamment la question, vous savez, des aides sociales, etc., en disant ce sont des cavaliers législatifs parce que c'est le sujet de c'est une loi sur l'immigration, c'est pas une loi sur les aides sociales. Or, c'était sur la question des droits sociaux des immigrants. Donc, naturellement, il y avait, pour le coup, il y avait un lien même indirect, hein, ce que la réforme constitutionnelle de 2008 avait prévu. Mais le Conseil constitutionnel s'est assis sur la réforme de 2008, donc de facto l'a abrogée. Puisque la jurisprudence, c'est pas la Constitution qui fait loi, c'est la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Si le Conseil constitutionnel décide que telle disposition de la Constitution dit le contraire de ce qu'elle dit, vous pouvez vous en plaindre à personne, c'est le Conseil constitutionnel qui décide. Hein, donc pas oublier ça, hein. Je renvoie à ce que j'avais dit sur le fait que celui qui est véritablement souverain dans un État, c'est celui qui juge en dernier ressort, hein, en l'occurrence, et notamment qui juge en dernier ressort de la Constitution, donc le Conseil constitutionnel dans l'ordre juridique français. Eh bien, vous voyez, là aussi, donc on a un parallèle de ces prodromes, on va dire, révolutionnaires, dans ce qui se passe en Ukraine et dans ce qui se passe en France. Et enfin, dernier élément, donc, je disais, structure du régime similaire, et un président ukrainien qui était élu au suffrage universel direct, tout comme le président français. Et pourquoi ça c'est important? Ben parce qu'on peut se dire que vous avez une révolution quand vous avez un Kaiser, quand vous avez un roi de France, c'est-à-dire quand vous avez quelqu'un qui n'a pas de date de péremption, qui est là toujours, et que vous voulez vous en débarrasser. Alors que vous vous diriez, si vous avez un mec qui est élu et que vous avez une échéance électorale, ben le réflexe, c'est toujours d'attendre l'échéance électorale, pas d'essayer de le dégager avant. Hein, puisque si vous dites il suffit d'attendre un an, vous n'allez pas faire des manifs pour qu'il dégage. Bon. Sauf s'il y a une extrême urgence, éventuellement, mais bon. Et justement, ce qui est intéressant dans le cas de Yanukovych, c'est qu'il avait un mandat de 5 ans, qu'il était là depuis 2010, et que son mandat aurait dû expirer en février 2015. Et qu'il a été poussé à la démission un an avant la fin de son mandat. C'est pour ça que c'est intéressant, parce que quand on étudie justement la question, par exemple, de l'éventuelle démission d'Emmanuel Macron, il a été question de sa démission, il n'a pas démissionné, mais bon. On verra s'il démissionnera effectivement ou pas, mais ce qui est intéressant en tout cas, c'est que le fait qu'il y ait une échéance électorale en 2027 n'exclut pas, a priori, si on suit l'exemple ukrainien, le fait qu'il puisse démissionner, parce que, clairement, l'exemple ukrainien le montre, le fait qu'il y ait une échéance électorale relativement proche, un an, n'empêche pas que vous puissiez avoir envie de foutre le type dehors et que le peuple se révolte pour foutre le type dehors. D'accord? Donc toutes ces raisons-là font que c'était intéressant aussi de raccrocher un petit peu la question de la révolution ukrainienne. Donc j'ai posé la question et ça marchait également très bien, puisqu'il a mis la destitution du président Yanukovych. Alors comme établissement d'un nouveau régime, il me met l'élection de Petro Porochenko lors de l'élection anticipée. Je dirais oui et non. À mon avis, ce qui est surtout important, c'est la remise en vigueur précisément de la réforme de 2004. C'est plutôt ça qui correspond en fait au serment du jeu de paume d'une certaine manière, puisque c'est la réaffirmation du pouvoir du Parlement contre le président. Et d'ailleurs, le Parlement a destitué Yanukovych après avoir fait ça. Hein. Donc moi, je mettrais plutôt ça. Mais bon, l'élection de Petro Porochenko, d'une certaine manière, c'est l'élection dans le cadre d'un pouvoir présidentiel légèrement abaissé. Donc, on peut considérer que ça colle aussi. Hein. C'est pas voilà, c'est pas net comme ça. C'est pas ça ou ça. C'est voilà des indices. La question c'est un petit peu quel est l'indice le plus fort, le marqueur le plus fort de telle évolution. Donc vous avez ensuite la question des radicalisations. Donc là aussi, vous voyez, le problème qu'il pose, c'est un problème que j'ai souvent vu et que nous avons souvent étudié en astronomie, c'est le fait que des fois, vous avez l'impression qu'il y a des choses qui se précèdent chronologiquement. Bon, c'est parce que le modèle, il n'y a pas forcément de lien de causalité entre certaines choses. Des fois, c'est plus une grappe de repères qui doivent se produire à peu près en même temps ou dans une chronologie approximative, plutôt que des choses qui suivent strictement un ordre de l'un vers l'autre. Mais ça existe aussi. J'ai trouvé ça très intéressant que du point de vue étude du clivage politique qui me mettent comme une radicalisation de la gauche l'implication de groupes comme Secteur Droit justement qui est souvent perçu comme quelque chose une organisation d'extrême droite en Occident hein, alors que les séparatistes pro-russes sont considérés comme étant la tentative de coup d'État de la droite. Et ça, je trouve ça intéressant parce que c'est effectivement le cas. Les révolutionnaires de Maïdan, par définition, étaient les mecs qui étaient les plus à gauche. Donc même s'il y avait des types chez eux qui pouvaient être considérés comme d'extrême droite en France, en réalité, localement et dans l'ordre politique interne ukrainien, ce n'était pas le cas. C'était des gens qui étaient de gauche parce qu'ils étaient révolutionnaires, ils étaient pour la rupture avec une Ukraine encore attachée, traditionnellement attachée depuis plusieurs siècles maintenant, à la domination russe, justement. Alors que ceux qui voulaient maintenir cet état de choses, c'était les séparatistes pro-russes. Donc effectivement, plus droitier dans le cadre du clivage. Donc je passe un petit peu sur la suite, parce que j'ai pas envie de faire le détail. Simplement, ce qui est très intéressant, c'est de voir que, encore une fois, pour des exemples plus anciens, pour des exemples du XXe siècle, pour des exemples du XVIIIe siècle comme la Révolution française, pour des exemples du XXIe siècle comme la Révolution en Ukraine, il a réussi à trouver tout ceci et à avoir une cohérence là-dedans. Et on voit encore une fois toujours que c'est sur des périodes qui sont à peu près similaires. Alors une fois qu'on avait ce modèle, que je lui avais refaire ce modèle par lui-même d'une certaine manière, J'ai eu envie naturellement de faire ce que moi je fais ici depuis des années maintenant, c'est-à-dire lui demander si, d'après lui, ça s'applique à la France. Et à partir de quand? Parce qu'il y a ça aussi. Parce que la question, c'est oh, je veux essayer de savoir où est-ce qu'on en est, et je veux essayer de savoir, du coup, à peu près ce qui va se passer. Et il y a des choses sur lesquelles il m'est difficile de savoir, parce que du coup, je suis pris d'hésitation. Je me dis peut-être que, comme c'est la première fois qu'il n'y a plus de majorité absolue depuis très longtemps, à partir déjà de 2022, est-ce que finalement ça n'aurait pas commencé un petit peu en 2022? Est-ce qu'on serait déjà pas déjà dans une étape plus avancée quand Emmanuel Macron décide la dissolution l'année dernière, etc. Donc voilà, j'avais envie de rechercher là-dessus. Et l'idée encore, vous l'aurez compris, c'est d'utiliser en fait la puissance de calcul de Grok pour aller beaucoup plus vite que moi quand je le fais à la main, pour aller revoir tous ces exemples et essayer de trouver une interprétation. Voilà, c'est l'idée de gagner du temps. Donc je lui ai posé cette question, savoir est-ce que ce modèle t'apparaît applicable au moins dans certaines de ses premières étapes, parce que l'idée c'est que je sais qu'on n'est pas arrivé jusqu'au bout, mais enfin déjà les premières, à compter de 2022 ou 2024. Et ce qui est très intéressant, c'est que il me dit non. Il dit, alors je saute directement à la conclusion, il y avait tout son argumentaire. Le modèle chronologique des phases révolutionnaires, je pense qu'on mettra le lien de la discussion Grok en description de la vidéo, comme ça vous pourrez aller tout vérifier vous-même. Donc il a dit, le modèle chronologique des phases révolutionnaires ne semble pas applicable, même dans ses premières étapes, à la vie politique française, ni depuis 2022, ni à compter de 2024. D'une certaine manière, ça m'a rassuré parce que avec l'IA, j'ai toujours peur qu'elle essaie de répondre en me faisant plaisir. C'est l'impression qu'on pouvait avoir, en tout cas au début, je trouve qu'elle le fait de moins en moins, c'est tant mieux. Ça arrive encore de temps en temps, l'impression que elle vous dit un truc parce que vous lui avez dit que donc elle cherche à, voilà, à aller dans votre sens. Donc j'aime bien en même temps quand l'IA me dit non, même si ça m'arrange pas. Donc il poursuit, la France traverse une période de turbulence, mais celle-ci reste contenue dans le cadre démocratique existant, sans signe de rupture révolutionnaire pour le moment. Si vous souhaitez en profondeur un peu possible, hein, comme d'habitude. Alors, pourquoi est-ce que je l'avais posé la question deuxième fois? Je crois que j'avais dû enlever Sync à un moment, et donc j'ai voulu le remettre pour voir si ça faisait une différence. En fait, il le disait de la même manière. Donc, c'est là que je me suis aperçu que le mettre ou pas, ça ne changeait pas grand-chose. Alors, quand même, j'ai essayé d'insister, vous voyez, comme ça m'énervait. Je lui ai demandé, la première motion de censure votée depuis 60 ans n'est pas un événement assez radical? La première absence de majorité au Parlement depuis 60 ans non plus, le fait que des appels à démission d'Emmanuel Macron soient nombreux, alors, tu n'entendais pas ça, le fait que la gauche se radicalise, etc. Et il m'a répondu, alors il m'a fait toute sa réflexion, et il a conclu, ces événements, bien que marquants, ne sont pas assez radicaux pour faire basculer la France dans une dynamique révolutionnaire comparable au grand bouleversement historique, donc du modèle. Ils traduisent une crise de gouvernance et de légitimité au sein d'un système démocratique qui, pour l'instant, tient bon. Il faut avouer qu'il dit la vérité, je ne vais pas mentir. Pour qu'ils deviennent les prémices d'une révolution, il faudrait des développements beaucoup plus extrêmes, une tentative de coup d'État, des soulèvements armés ou une paralysie totale des institutions. En mai 2025, la France vit une période de turbulence politique, mais elle reste éloignée d'un scénario révolutionnaire. Pas surpris, c'est ce que disent tous mes détracteurs, et bah, limite, c'est ce que moi, le premier, je vois. Hein. Je ne vais pas mentir. Donc, je trouvais ça intéressant. Mais, néanmoins, l'historiennome averti que je suis et que vous êtes aussi, c'est qu'il y a un problème avec la Ve République, que c'est issu de l'impérialisme revanchard gaulliste, qui lui-même était un impérialiste revanchard, on va dire, doux, mais enfin qui en était un, que en général, un impérialiste revanchard qui mute dans la durée et qui n'est pas renversé comme l'URSS de Staline, comme le règne de Mao Tse-Tung, comme le règne des Mollahs en Iran, ben ça donne un nouvel ancien régime. Un nouvel ancien régime, ça se termine par une nouvelle révolution. L'exemple qu'on en a étant là, justement ce qui touche le fait que la Russie ait connu une nouvelle révolution à partir de 1991, enfin, ou un peu avant. Donc on voit quand même qu'il y a toute cette trajectoire. Donc voilà, on devrait voir une révolution. La question, c'est quel sera le niveau de cette révolution? Et c'est là que ça nous ramène justement à l'origine, encore une fois, c'est que on a eu un impérialisme revanchard doux avec De Gaulle. Et on a eu quelque chose qui est un ancien régime, mais beaucoup plus démocratique que tous les autres cas qu'on voit. Ça, tout à fait très clairement. Ça n'empêche pas, je veux dire. C'est-à-dire qu'on est dans un rapport relatif, on est vraiment dans une extrémité du spectre de ce qui peut se faire de plus doux, malgré tout. On est, j'ai des problèmes avec la Constitution française, j'ai déjà dit qu'on avait une Constitution qui était structurellement autoritaire, etc. D'accord. Bon, non, on n'en voit pas les opposants en asile psychiatrique. Sauf cas très exceptionnel. Voilà, donc on n'est pas sur ce niveau-là, ce qui fait encore dire à beaucoup, effectivement, mais on n'est pas en dictature, allez en Corée du Nord, etc. Vous connaissez le truc. Et qui a une part de vrai, on va pas dire le contraire. Pas dire le contraire. Il y a des problèmes en France, il y a des choses qui sont inquiétantes. On a vu la façon dont les gilets jaunes ont été réprimés, un certain nombre de choses, etc. Mais voilà, on n'est effectivement pas typiquement dans ce qu'on voit dans un État autoritaire, même si il y a des indices qui peuvent s'accumuler. En tout cas, à tout le moins, c'est un autoritarisme mou, d'une certaine manière. Une sorte de dictamol, comme disaient les Espagnols à propos de la dictature de Dámaso Berenguer entre 1930 et 1931, justement. Mais ça n'empêche pas. Et à la limite, ça serait cohérent. Je veux dire que ce soit adouci, d'autant plus qu'on en est à notre troisième révolution nationale, ça serait la quatrième si elle commençait. Donc ça commence à faire beaucoup. Donc on peut se dire que ça s'essouffle un peu. Du coup, je lui ai posé la question suivante. Ok, alors je vais te demander d'appréhender les choses un peu différemment. Essaye de faire le parallèle en admettant qu'en France, tous les événements du modèle sont d'un ordre de grandeur de radicalité inférieur à ce qu'on a vu dans les autres exemples. Chose très intéressante, c'est qu'il m'a trouvé un vocable pour ça. Il a appelé de modèle atténué. J'aime bien quand il trouve sa propre façon de mentionner les choses. Vous voyez, il parle de version atténuée. Je trouve ça intéressant. Moi, c'est pas un mot que j'ai employé et j'adore quand l'IA commence à vous parler avec ses propres mots, en fait. C'est ce qu'on demande aux gens. Explique-moi avec tes propres mots. L'IA vous explique avec ses propres mots et vous montre qu'elle a compris parce qu'elle ne se contente pas de répéter ce que vous avez dit. Moi, je lui ai dit un ordre de grandeur de radicalité inférieure et elle interprète ça comme version atténuée. Et ce qui est très intéressant, c'est que il réfléchit donc à ce que c'est le modèle classique, à ce que ça serait atténué, à ce qui s'est passé en France. ça marche, voilà. La conclusion qu'il donne en ayant analysé de cette manière, c'est, en admettant, je cite, hein, en admettant que les événements en France se déroulent à un ordre de radicalité inférieur, la situation politique depuis 2022 ne suit pas pleinement le modèle chronologique des phases révolutionnaires. Les parallèles existent sous une forme atténuée. Un affaiblissement du régime plutôt qu'une chute, des débats sur les institutions plutôt qu'un nouveau régime, une radicalisation en rhétorique plutôt qu'insurrectionnelle. Je trouve ça intéressant parce que c'est vrai. Objectivement, je dois être objectif. Bon, j'écoute ce qu'il dit, c'est vrai. Cependant, je poursuis, c'est Grok qui parle. Cependant, ces éléments reflètent davantage une crise démocratique profonde qu'une trajectoire révolutionnaire. Pour que le parallèle soit plus convaincant, même à un niveau réduit, il faudrait des indices plus marqués de rupture institutionnelle, par exemple une tentative réussie de changer la Constitution. C'est intéressant. Jusqu'ici, encore une fois, on a eu des demandes de démission du président très très fortes, mais il n'y a plus de démission. On a eu des demandes et on a vu, je rappelle, c'était l'année dernière, je vous avais cité les études, il y avait des sondages qui montraient que vous aviez, je crois, plus de 60, je crois, 63% des Français qui étaient favorables à un changement de constitution, etc. Il n'y a pas eu de. Je crois qu'on n'a pas refait de sondage sur la question, mais je pense que ça existe toujours, hein, ça doit être dans la population. Pas besoin que les gens aient changé tellement d'avis. Donc, une tentative réussie de changer de constitution ou une escalade vers des actions plus radicales, violence, paralysie des institutions. En mai 2025, ces conditions ne sont pas réunies, la France traverse une turbulence politique sérieuse, etc., etc. Elle reste contenue dans le cadre de ses institutions existantes, ce qui est vrai. Alors, du coup, j'en ai parlé notamment dans le Télégramme, mais je dois dire que ce contournement, on va dire, disons, intellectuel, m'a été suggéré notamment par Martin, que je salue. La question que je me suis posée, c'est peut-être que je peux lui faire admettre qu'on se rapproche et qu'on est vraiment dans le modèle, en utilisant quelque chose qui est un peu entre les deux. Un cas, par exemple, qui serait pas au niveau de radicalité des autres exemples que j'ai donnés, mais qui serait un niveau de radicalité supérieur à ceux qu'on a connus, à ce qu'on connaît en France, pour lui faire admettre qu'en fait, c'était dans un spectre, mais c'était pareil. Et donc, le cas que je suis allé chercher, c'est la révolution, l'équivalent de la révolution nationale au Japon. Parce que vous savez que la révolution nationale au Japon, ça commence en 1912 avec ce qu'on appelle l'ère Taisho. Et donc, c'est à ce moment-là que vous allez avoir le premier gouvernement qui est une émanation véritable du Parlement, le premier qui tombe parce qu'il n'a pas le soutien du Parlement, donc la parlementarisation du régime qui commence là. Vous n'avez pas de chute de l'empereur Meiji qui reste toujours en place, mais voilà, c'est une transformation beaucoup plus en douceur, on va dire, du régime. C'est ensuite, dans les années, à la fin des années 20 et au début des années 30, que vous avez le régime qui plonge véritablement dans les difficultés, notamment en raison des difficultés économiques, parce que ce qui caractérise la révolution japonaise, c'est qu'elle commence plutôt pour des problèmes institutionnels internes, mais alors que le problème de ruine financière, vous savez, que je considère comme une des conditions de l'exercice plein et entier du mouvement de révolution, n'était pas là. C'est-à-dire que les véritables difficultés économiques au Japon sont véritablement apparues à partir de la crise de 29. Donc avant, il n'y en avait pas. Si vous voulez. Donc en tout cas, il y en avait moins. Donc la violence politique, elle arrive vraiment après. Donc c'est pour ça que vous avez ensuite un impérialisme revanchard très dur du Japon contre la Chine et contre le reste du monde. Vous le savez, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Mais la révolution elle-même, donc si vous cantonnez jusqu'au milieu des années 20, ça s'est passé tranquillement. Et donc mon idée, c'était s'il trouve, s'il identifie les étapes du schéma révolutionnaire dans le Japon, alors que ça s'est passé de manière assez tranquille, bah, je pourrais lui dire ensuite, bah, tu vois, donc du coup, tu l'as identifié en Japon, mais ça se passe aussi tranquillement en France, donc on est toujours dans le schéma. Il ne s'est pas laissé avoir aussi facilement, au contraire. Donc je lui ai dit, ok, revenons au tableau dans son dernier état. Peux-tu trouver quelque part entre 1912 et 1925 une série d'événements correspondant au modèle dans l'histoire du Japon? Donc là, il réfléchit, il voit, alors il trouve la période Taisho, il fait le truc, il voit effectivement que il n'y a pas de chute, etc. Mais tout de suite, il part sur la question du parallèle atténué, là aussi. Et il me dit, en conclusion, entre 1912 et 1925, le Japon a connu des transformations politiques et sociales importantes, notamment une libéralisation politique progressive et des tensions sociales croissantes. Cependant, ces événements ne correspondent pas pleinement au modèle révolutionnaire classique qui implique des ruptures brutales et des changements de régime. En appliquant le modèle avec une radicalité atténuée, on peut identifier des parallèles dans des dynamiques de l'époque, comme l'évolution vers une plus grande participation politique, la radicalisation contenue de la gauche. Participation politique, c'est la phase 2 hein, dans le tableau. Radicalisation contenue de la gauche, c'est phase 3. Et des mesures de répression conservatrice, phase 8. Néanmoins, l'absence de chute brutale du régime et d'événements déclencheurs de prise de pouvoir limite la pertinence du modèle pour cette période de l'histoire japonaise. J'en étais parfaitement conscient, comme je vous ai dit. Pour moi, je savais que c'était plus atténué que les autres. Ce qui est très intéressant, c'est que du coup, il me dit non. Alors, je pensais quand même qu'il trouverait une proximité plus importante, mais il ne la voit qu'atténuée en France. Et donc là, j'ai insisté en lui disant, pour le Japon, je ne veux pas de version atténuée, parce que j'ai pensé qu'en fait, il me parlait de version atténuée uniquement parce qu'il était dans cette dynamique-là. C'est le problème qu'on a parfois avec le bot, c'est qu'il se remet pas sur l'état de la conversation avant, alors que vous voudriez ignorer une partie. Donc j'ai réinsisté, pour le Japon, je ne veux pas de version atténuée, reviens sur le modèle normal, vois-tu quelque chose qui colle? Et il me dit en conclusion, bien que le Japon, encore une fois, etc., ces changements restent évolutifs et ne s'alignent pas sur le modèle révolutionnaire standard, il manque des étapes clés comme la chute brutale du régime, une prise de pouvoir radicale, une refonte complète du système politique. En somme, rien dans cette période de l'histoire japonaise ne colle pleinement au modèle que tu demandes. Les dynamiques observées sont significatives, mais elles relèvent davantage d'une réforme que d'une révolution. Donc, ça ne me permettait pas de rattacher le cas de la France avec les autres. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que du coup, malgré tout, et ça a quand même renforcé mon intuition, c'est que moi, je sais, historiquement, j'ai écrit des bouquins dessus, c'est dans Les impérialistes revanchards notamment, que le Japon connaît bien une révolution nationale à ce moment-là. Parce que l'outcome, au bout de 30 ans, est exactement celui qu'on attend d'une révolution nationale. Et que, en plus, cette révolution nationale va donner lieu à un impérialisme revanchard, ce qui est un autre facteur et marqueur de la révolution nationale, que naturellement je ne lui ai pas fait mettre dans son tableau, puisque la période de temps que je prends est plus courte, et donc forcément il ne peut pas le trouver. Mais donc moi je sais, j'ai d'autres indices, etc. Je sais que le Japon, ça colle. Ça colle. Je sais que ça colle plus doux, mais que ça colle. Donc le fait qu'ils me disent oui, mais ça ne marche qu'en version atténuée, en même temps, ça confirme que le fait qu'on ne trouve les choses qu'en version atténuée en France ne permet pas de dire que du coup il n'y a pas de révolution en France. Ça peut vouloir dire juste qu'on a un modèle atténué, et ce modèle atténué, il peut n'être atténué que pendant un certain temps. Encore une fois, je rappelle le Japon. Le Japon, vous avez le modèle de la Révolution nationale, les premiers temps sont effectivement atténués, vous n'avez pas la violence de la Révolution française par exemple. Par contre, l'impérialisme revanchard japonais est aussi violent et expansif que n'importe quel autre cas de gros impérialisme revanchard. Avec les gros succès d'ampleur, la conquête de toute l'Asie du Sud-Est, etc. Donc, le fait que ce soit, on va dire, atténué au début ne signifie pas forcément que c'est atténué à la fin. Donc, cette discussion, cet échange avec Grok, a quand même permis aussi de faire prendre conscience de ça. Et alors, c'est là qu'on va arriver sur les choses qui vont véritablement vous intéresser, puisque du coup, maintenant qu'il a dit que ça, qu'il m'a dit malgré tout qu'il y avait un parallèle atténué. Eh bien, je me dis, bon, ben, alors du coup, je peux lui demander de me faire une projection, quitte à ce que ce soit une projection atténuée, voilà, puisqu'il me dit c'est sur tel degré. Quelque part, c'est intéressant parce que c'est une des choses que je cherche à savoir aussi. Quand on cherche à projeter chaque fois que j'ai parlé avec vous, de savoir qu'est-ce qui va se passer, je vous dis, ben, dans un truc, une évolution, modèle dur par exemple, ça serait ça, et modèle soft, ça serait ça. Bon, ben, du coup, c'est exactement ça que j'ai pu lui demander. Donc, je lui ai dit, je reviens sur le parallèle atténué pour la France. Si on projette la suite du modèle en version atténuée, que devrait-il se passer en France dans les 3 prochaines années? Puisque à ce moment-là, ça veut dire que vous considérez, puisque les premières étapes sont arrivées, on va dire, dans l'année précédente, donc je lui ai dit les 3 prochaines années, j'aurais pu dire les 4 prochaines années pour faire 5 ans, mais bon, mettons que ça commence en 2023, j'en sais rien. Voilà, pour rester dans cet ordre de truc-là, savoir ce qui va se passer dans les 3 prochaines années, je trouvais ça intéressant. Vous pourrez vous amuser à réessayer, à lui demander les 4 prochaines années, comme vous voudrez. Alors, oui, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, je vais peut-être vous lire un petit peu plus en détail ce qu'il a dit. Donc, il rappelle, d'abord, il commence à réfléchir en rappelant ce qu'on a déjà vu, d'après lui. D'abord, l'affaiblissement du régime plutôt qu'une chute brutale, la perte de majorité claire au Parlement et une fragilité gouvernementale croissante, là, on est d'accord. Le débat sur des réformes institutionnelles, des discussions sur une 6e République ou des changements constitutionnels, mais sans bouleversement total. Effectivement, on n'a pas encore de mise en place d'une constituante, comme par exemple en Allemagne ou en Espagne en 1931, très clairement. Mais il y a eu le mouvement qui aurait pu pousser pour. Et en soi, j'ai déjà eu dit que peut-être qu'il y avait déjà un parallèle malgré tout à faire entre le serment du jeu de paume et cette première motion de censure en 60 ans, qui est quand même. Voilà, c'est quand même important parce que je disais, j'ai rigolé un peu avec les gens sur Telegram, mais il y a un côté littéraliste chez Grok. Et donc, Grok qui vous dit, en gros, oui, d'accord, des motions de censure, il n'y en a pas souvent, mais c'est prévu dans la Constitution, donc ce n'est pas une rupture. Ça va, quoi, c'est écrit dedans. Bon, alors que bon, vous savez très bien que quand vous avez la première motion de censure en 60 ans, c'est significatif. Hein, ce n'est pas parce que c'est écrit dans la Constitution que c'est possible, que ce n'est pas un événement très important. Et une reprise du pouvoir du Parlement. Donc, quand même, je pense qu'on est sur quelque chose de légèrement plus marqué que ce qu'il dit. Mais bon, on reste à ce qu'il dit. Donc ensuite, deuxièmement, le débat donc sur les réformes institutionnelles, ça je l'ai dit. Il y a le débat sur démission, 6e République. Bon, mais pour l'instant, il n'y a rien eu. Il faut être d'accord. Et enfin, radicalisation rhétorique de la gauche plutôt qu'insurrectionnelle. La France insoumise adopte un discours combatif, mais sans passer à l'action violente. Là aussi, je suis d'accord. Mais. Événement récent. Je rappelle les attaques sur les prisons, c'était quand même assez significatif, ça a inquiété. Et je rappelle aussi les perspectives qu'il y a avec ça, la montée en tension sur la question de l'islamisme politique, la plausible future dissolution d'organisations antifas, ce qui n'arrive jamais d'habitude, hein. Les antifas sont entièrement protégés, contrairement à l'ultra-droite. Donc ça, ce sont des choses qui sont intéressantes, parce que si vous avez une organisation antifa qui est dissoute, à laquelle appartenaient un des députés les plus en vue de la France insoumise, ça risque de faire du bruit. Donc voilà, radicalisation rhétorique plutôt qu'insurrectionnelle, j'ai envie de dire oui mais. Hein. Parce qu'en plus, il y a d'autres sujets où on va voir comment ça va évoluer. Sur les retraites, par exemple, si pour l'instant ça n'a pas bougé parce qu'il y a la perspective qu'on revienne sur l'âge. Mais on a vu que dès que Bayrou juste avait dit non, non, mais là, j'en reviendrai pas dessus, hop, ça a commencé à s'énerver. Ça s'est calmé toujours parce qu'il a dit non, non, mais conclave. Mais dès qu'on va en sortir de ça, et bon, ça pourra pas s'éterniser, on verra ce que ça donne. Donc à partir de là, il nous fait ses projections pour la France 2025-2028. Avec donc tentative de coup d'État à la droite. Alors, là, ils voient pas d'action illégale. Ils me disent qu'il pourrait se passer un Rassemblement national qui intensifierait les actions légales mais agressives, des manifestations massives contestant la légitimité du pouvoir en place. Alors là-dessus, dès le début, j'ai un petit problème. Je ne crois pas tellement à la capacité, par exemple, du Rassemblement national d'organiser des manifestations massives. En général, le Rassemblement national essaie de suivre sur des trucs. Mais ça marche pas tellement. Et puis en plus, j'ai un autre problème, comme vous le savez, dont je parle souvent, c'est que ce qui fait débuter les révolutions véritablement, c'est la gauche, c'est pas la droite. La droite n'est pas révolutionnaire, par définition. Donc en général, elle vient plutôt. Elle devient révolutionnaire en ce qu'elle est contre-révolutionnaire, mais pas pour casser les choses, pas pour casser les choses à la base, hein. Donc, alors, je pense que je ne fais pas le détail des phases parce que ce n'est pas tellement ça qui est intéressant. De toute façon, vous allez comprendre ce qu'il dit ensuite. Donc là, juste, en fait, il m'a expliqué, voilà, quelles seraient d'après lui les phases qui pourraient se passer, comment ça pourrait accéder. Mais, comme j'avais envie, et donc la synthèse, je vous fais la synthèse du résumé chronologique, il me le fait à la fin. 2025-2026, l'extrême droite RN déstabilise le gouvernement via manifestation et blocage. Alors, je ne sais pas si ça serait l'extrême droite RN, mais vous pouvez avoir. Les agriculteurs pourraient avoir des problèmes de la France périphérique à propos de la ZFE, tout ça serait de toute façon plus ou moins considéré d'extrême droite. Hein. Pour avoir des manifs contre l'immigration, même si en général ça ne se fait pas trop, c'est plutôt les questions économiques. 2026, une crise économique ou politique amplifie les tensions sociales. 2027, victoire d'un candidat populiste au présidentiel suivi d'une crise constitutionnelle. 2027-2028, réforme autoritaire pour consolider le pouvoir. Et 2028, stabilisation, mais avec une société divisée et des institutions fragilisées. Alors. On va y revenir dans un instant, parce que vous allez voir, je lui ai demandé de détailler plus tout ça. Mais ça m'oblige à rappeler effectivement une chose que je dis assez peu souvent. Vous savez que j'appelle de mes voeux le fait que la France devienne un régime parlementaire comme chez les voisins. Hein? Ce qui serait normal, on devrait être ça. C'est ça qu'on devrait être. Et donc, naturellement, je me réjouis des évolutions parlementaires actuelles. Mais, je dois aussi admettre que dans l'immédiat, c'est voué à l'échec. Pourquoi? Ben parce que si vous connaissez un peu le modèle de la Révolution nationale, vous savez que la tentative parlementaire qui sort immédiatement de la Révolution, qui est le premier résultat immédiat de la Révolution, hein, c'est l'apparition de l'Assemblée nationale, etc. Cette tentative fait très rapidement place à une crise interne, une déstabilisation et finalement le retour d'un pouvoir autoritaire. Que ce soit celui d'Hitler en Allemagne, la dictature militaire de Bonaparte en France, l'arrivée des fascistes Mussolini, l'arrivée de Franco, etc., c'est toujours pareil. Et ensuite, il faut attendre 20 ans avant que les choses redeviennent véritablement une démocratie parlementaire. Donc, le fait que dans son calendrier, ils me disent que tu peux descendre un peu dans le calendrier, histoire qu'on voit le résumé chronologique, Léo, s'il te plaît. Le fait que dans ce calendrier, ils me disent que donc ce qu'on va avoir, en fait, c'est une déstabilisation, crise, et finalement une victoire d'un candidat au présidentiel et des réformes autoritaires pour consolider plutôt le pouvoir présidentiel que l'affaiblir, je crains effectivement que ce soit le cas. Que ce soit quelque chose comme ça qui se passe. Donc ça mettra plusieurs années. Donc ça ne sera pas Emmanuel Macron, ça sera après lui, qu'il ait démissionné avant la fin de son mandat ou bien que ce soit dans le mandat suivant, puisque c'est à l'horizon 2028 qu'il vous dit. Mais, et vous voyez que c'est ce qui s'est passé en Ukraine. Hein. En Ukraine, vous avez eu donc la Rada qui a repris du pouvoir, et il faut dire qu'à partir de la présence de Zelensky, et en particulier naturellement à partir de la guerre, contraint et forcé, le pouvoir est redevenu beaucoup plus vertical et autoritaire qu'il ne l'était au lendemain de la chute de Yanukovych. Très très clairement. En pratique, c'est devenu ça. parce que c'est le schéma classique de la Révolution nationale. Et donc, quand vous avez une fonction comme ça, qui est élective, mais qui est la fonction suprême, et à partir du moment où elle disparaît pas, elle peut s'affaiblir pendant quelque temps, mais faire un retour en force ensuite, après une élection. Donc c'est pas absurde qu'on ait un schéma comme ça, où vous n'auriez jamais la présidence de la République qui disparaît en France, qu'elle s'éclipse pendant un moment de vigueur parlementaire, on va dire, mais qu'ensuite, en raison des désordres de la crise, etc., la sortie de crise se fasse par le retour d'un exécutif fort qui soit avec la même fonction. On revient sur ce que j'ai dit, sur le fait qu'il n'y a pas forcément de changement de république, ou en tout cas pas dans l'immédiat. Ça peut être moins explicite ou officialisé que ça, même si dans les faits, encore une fois, on a déjà vu ces 6 derniers mois une pratique du pouvoir qui a beaucoup changé par rapport à ce qu'on était habitué à voir dans les décennies précédentes. Alors, pour essayer d'y voir un petit peu plus clair et de rendre tout ça quand même un petit peu plus ludique d'une certaine manière, je lui ai demandé de me transformer ça en scénario de politique fiction, avec un paragraphe par idée, en gros, ou par date, pour voir à peu près où est-ce que ça va, vers quoi ça nous conduit, en fait, hein. Et là, donc, il m'a fait un premier scénario de politique fiction, donc, il me dit purement hypothétique, basé sur un modèle révolutionnaire atténué et qui imagine des événements plausibles dans le contexte politique et social actuel sans prétendre prédire l'avenir, naturellement. Alors, voilà ce qu'il m'a sorti. 2025, vous verrez ça, c'est pas le dernier. Je le lui fais corriger après parce que pour moi, son truc, c'est pas cohérent parce qu'il y a plein de critères qu'il oublie au passage, je pense, et qui faussent le truc, dont j'ai déjà un peu parlé. Alors, il voit donc l'extrême droite déstabilise le gouvernement en 2025, le Rassemblement national, fort de ses succès aux législatives 2024, intensifie ses efforts pour déstabiliser le gouvernement minoritaire en place. Alors, c'est pas totalement impossible en raison de ce qui est déjà arrivé à Marine Le Pen. Ça pourrait se renforcer encore plus si, par exemple, son inéligibilité était confirmée. Donc, il pourrait y avoir une espèce de guérilla parlementaire comme ça conduite par le Rassemblement national. Plus de problèmes pour les manifestations dans les grandes villes, mais peut-être qu'elle le ferait quand même à l'approche de l'échéance électorale et si elle peut vraiment pas se présenter. Je sais pas si elle accepterait simplement que Bardella aille se présenter. Donc manifestations massives dans les grandes villes, contestant la légitimité du pouvoir, réclamant des réformes radicales sur l'immigration et la sécurité. Là, encore une fois, j'ai du mal parce que des grosses manifs du Rassemblement national sur ce genre de sujet. Pour moi, ça serait nouveau, ça serait très nouveau. Mais bon. À l'Assemblée nationale, le RN bloque les projets de loi et multiplie les motions de censure paralysant le pays. Ça, c'est pas impossible. En octobre, des heurts violents éclatent à Paris entre manifestants et forces de l'ordre, accentuant les craintes d'une escalade. Là aussi, les heurts entre les militants du RN et les forces de l'ordre, j'ai du mal à voir ça tout de suite. Ensuite, crise économique et sociale. Crise économique sévère frappe la France. Ça serait pas surprenant. Aggravée par l'instabilité politique. La hausse du chômage et l'inflation galopante et une dette publique écrasante fragilise le pays. Le gouvernement incapable d'adopter un budget impose des coupes impopulaires dans les services publics. Provoque des grèves massives. Retour des gilets jaunes. La France insoumise appelle à une révolution citoyenne. Semble toutefois basculer dans la violence. Maintenant la contestation dans un cadre légal. Ça, optimiste à ce stade-là, mais bon. Et c'est intéressant parce qu'on retrouve pas mal le type de scénario imaginable que j'avais imaginé en 2020 à l'époque dans mon premier article sur la question. 2027, victoire populiste et crise constitutionnelle. Alors là, c'est intéressant. 2027, Marine Le Pen remporte les présidentielles, profitant du mécontentement généralisé de la division de la gauche. Son élection serrée face à un centriste déclenche une crise constitutionnelle. Le Parlement, dominé par une opposition fragmentée, refuse de coopérer. Ça, c'est tout à fait possible, hein, qu'on ait une élection au suffrage universel d'un président RN, mais qu'en face de lui, en raison de la proportionnelle, qui sera peut-être instituée d'ici là, il n'y ait pas de majorité, et que donc il ne puisse pas gouverner, et que vous ayez à ce moment-là une sorte de clash, un petit peu type MacMahon, quoi. En septembre, elle dissout l'Assemblée nationale et les législatives anticipées donnent une courte majorité au RN. Des soupçons de fraude et des manifestations violentes éclatent, culminant en novembre avec des affrontements mortels à Marseille entre partisans opposants du RN. 2028, réforme autoritaire et stabilisation fragile. En 2028, Le Pen consolide son pouvoir avec une révision constitutionnelle adoptée par référendum en mars, instaurant une 6e République au pouvoir présidentiel renforcé malgré des accusations de manipulation. Des lois sécuritaires et anti-immigration sont durcies. Et les médias critiques sont restreints. L'économie montre une légère reprise grâce à des mesures protectionnistes, mais la société reste divisée, avec des libertés publiques réduites et des tensions persistantes dans les banlieues et les zones rurales, tandis que la gauche tente de restructurer. Ça ne me paraît pas tout à fait absurde. Mais ce scénario, pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas satisfait? Tout simplement parce qu'il y a tout un tas de choses que, selon moi, il n'intégrait pas. Et donc, je lui ai demandé de les intégrer et je lui ai posé la question suivante. Je lui dis, intègre à ce scénario une dégradation de la situation en Ukraine avec de forts progrès russes. Les Russes y réaccélèrent actuellement en Ukraine. Ça avait ralenti depuis novembre. Ça stagnait pas mal en janvier-février. Là, clairement, ils réavancent presque à coup de 30 km² par jour. C'est pas encore gigantesque, mais le grignotage a repris. Le grignotage réaccélère et vraisemblablement, il y a d'autres ambitions d'ouverture de front ou d'attaque en direction de Soumy, de Kharkov, etc. Vladimir Poutine a dit qu'il voulait établir une zone tampon. Donc, en fait, ce qu'on sait depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il a des vues sur d'autres oblasts que ceux qu'il a annexés, tout ceux à la frontière russe. Et donc, il veut bouger. Et donc, dans l'immédiat, en particulier si le soutien américain n'accélère pas et que Donald Trump ne met pas d'autres sanctions, etc., la dégradation de la situation en Ukraine, c'est une quasi-certitude dans les mois qui viennent. Hein. Dans les mois d'été, là, les Russes vont essayer de tout donner. Donc, voilà pourquoi je l'ai dit, intègre à ce scénario une dégradation de la situation en Ukraine avec de forts progrès russes, voire une confrontation autour des pays baltes courant 2026. Voilà, ça me paraît cohérent avec ce qui se dit depuis quelques années et les échéances que moi je visualise. Ensuite, j'ai demandé d'intégrer une crise entre la Commission et le Parlement européen sur le sujet de la défense européenne, parce que je pense que ce sera le principal sujet, justement, dans le cadre de cette complication. Vous savez, la Commission européenne veut commencer à acheter des trucs elle-même. Il y a des questions sur le budget. Vous savez, les fameux 150 milliards qu'il faudrait investir à la défense, comment ça sera? Il commence déjà à y avoir de l'eau dans le gaz entre la Commission et le Parlement européen sur ces questions-là. Donc, c'est un vrai sujet. Tout ça, c'est de l'actualité, simplement, qu'il n'avait pas pris en compte international. Hein, mais forcément, ça va jouer en France. Donc, sur le sujet de la défense européenne, disais-je. Et une agitation de la gauche en France plus violente que tu ne l'envisageais à l'occasion de la dissolution de la Jeune Garde par le gouvernement et l'interdiction des frères musulmans. Pour l'instant, on n'a pas interdit les frères musulmans, mais peut-être ça arrivera. Si vous avez dissolution de la Jeune Garde et interdiction des frères musulmans, vous allez avoir une convergence encore plus forte là, entre ces éléments de la gauche. Et donc, ça pourrait être plus violent que ce qu'il n'envisage. Voilà. Donc, je lui ai demandé de le corriger. Et donc, il m'a corrigé le scénario de la façon suivante. Alors, pour 2025, il me reprend ce qu'il avait dit, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, le RN paralyse les travaux législatifs, etc. Bon, ça n'a pas grand-chose. À partir de 2026, par contre, il me dit crise multidimensionnelle et embrasement. Je crois que tu as une question de retard, Léo. C'est après le prompt suivant. crise multidimensionnelle et embrasement. Donc je vous lis ce que me dit Grok dans ce cas-là. L'année 2026 marque un tournant dramatique pour la France, confrontée à une convergence de crises internes et externes. Dégradation en Ukraine et tension autour des pays baltes. La situation en Ukraine se détériore gravement avec des avancées russes majeures consolidant leur contrôle sur l'est du pays. Courant 2026, des incidents éclatent autour des pays baltes ou des provocations russes, survols militaires, cyberattaques, font planer la menace d'une confrontation directe avec l'OTAN. La France, membre clé de l'Alliance Atlantique, se retrouve sous pression pour augmenter ses contributions militaires et financières, déclenchant un débat national houleux sur l'engagement du pays dans un conflit potentiellement plus large. Ça, c'est tout à fait vraisemblable. Crise européenne sur la défense. Simultanément, une crise éclate entre la Commission européenne et... Alors, le simultanément, parce que du coup, vous voyez, on est sur l'imbrication des deux révolutions. J'aurais pu peut-être lui poser des questions là-dessus aussi, mais je le ferai peut-être plus tard. Sur le fait d'appliquer aussi le modèle à l'échelle européenne en même temps, mais bon, j'ai pas eu le temps pour ce soir, et puis vous voyez, l'heure tourne, mais déjà, ça permet d'avancer. Donc, simultanément, une crise éclate entre la Commission européenne et le Parlement européen sur la question de la défense. La Commission propose une mutualisation accrue des ressources militaires pour contrer la menace russe, mais le Parlement, divisé entre souverainistes et fédéralistes, bloque les initiatives. Cette paralysie exaspère la France, qui plaide pour une réponse ferme et unifiée, mais se heurte à l'opposition de certains États membres. L'incapacité de l'UE à agir fragilise sa crédibilité et accentue ses tensions diplomatiques. Vous savez que je vous ai maintes fois parlé du fait que je pensais qu'une grande partie des succès russes seraient acquis notamment dans l'affaiblissement de l'Union européenne, voire une implosion d'une partie de l'Union européenne sur le modèle de l'URSS. Donc ce serait tout à fait cohérent avec ce scénario. Enfin, agitation violente de la gauche en France. Sur le plan intérieur, la situation explose suite à des décisions gouvernementales radicales. Face à la montée des tensions, le gouvernement dissout la Jeune Garde, un groupe de jeunesse d'extrême gauche, et interdit les frères musulmans accusés d'inciter à la subversion. Ces mesures, perçues comme une atteinte aux libertés, provoquent une réaction d'une violence inédite. La gauche radicale, menée par la France insoumise, appelle à la désobéissance civile. Des émeutes éclatent dans les grandes villes. À Paris, Lyon et Marseille, des barricades sont érigées, des commissariats attaqués et des affrontements avec la police font des dizaines de blessés. Des groupes islamistes clandestins s'associent à certains mouvements, amplifiant le chaos. Cette agitation, combinée à une crise économique, chômage en hausse, inflation galopante, ranime les gilets jaunes et paralyse le pays. Je trouvais que déjà, sur un scénario qui est plus cohérent. Alors, j'ai quand même dû lui demander de préciser encore, parce qu'après, il ne suivait pas l'idée, et il retombait sur 2027 de son premier scénario, comme s'il n'y avait pas eu ce 2026-là, donc c'était absurde. Donc, je lui ai demandé de le faire. Je lui ai demandé en ces termes, tu n'as pas l'air d'intégrer les conséquences de tes ajouts en 2026 à 2027-2028. Il me semble qu'avec les difficultés militaires et politiques à l'échelle européenne et la violence supérieure de la gauche, il devrait y avoir quelques différences. Et donc là, il m'a refait le scénario. Alors, il m'a repris ce que j'ai déjà dit en 2026. Et là, donc il me refait son 2026. Alors, je vais reprendre là. Donc, agitation violente de Lagos. En réponse à la montée des tensions, le gouvernement dissout la Jeune Garde. Ça, on l'a déjà vu. À Paris, des barricades sont érigées dans le quartier de Belleville. Des commissariats sont attaqués. Et à Lyon, un incendie ravage un bâtiment administratif. Ces violences, combinées à une crise économique, ravivent les gilets jaunes qui bloquent routes et ronds-points, plongeant le pays dans le chaos. 2027. En 2027, la présidentielle se déroule dans un contexte de crise internationale et de violence intérieure. Marine Le Pen l'emporte de justesse face à un candidat centriste, capitalisant sur la peur d'un conflit avec la Russie, l'effondrement de la confiance dans l'UE et le chaos social. C'est intéressant. Cependant, les violences de la gauche, exacerbées par la répression de 2026, entachent le scrutin. Des manifestations massives organisées par LFI et des groupes anarchistes dénoncent des irrégularités électorales et des affrontements à Marseille font plusieurs morts. Le Pen dissout l'Assemblée nationale en septembre, mais les législatives anticipées ne donnent qu'une majorité fragile au RN, compliquant la gouvernance. Sur le plan international, la France adopte une posture ambiguë. Tout en restant dans l'OTAN, elle réduit son engagement dans les pays baltes, préférant négocier avec la Russie pour protéger ses intérêts économiques, notamment énergétiques, ce qui provoque des tensions avec les alliés européens. La crise européenne sur la défense s'aggrave, l'UE apparaissant incapable de répondre à la menace russe, ce qui renforce l'euroscepticisme et donne du crédit au discours souverainiste de Le Pen. Ça, je trouve ça vachement intéressant. La façon dont il m'a tourné le truc, c'est tout à fait cohérent. 2028, consolidation autoritaire dans une société fracturée. En 2028, Marine. Alors, j'ai quand même un problème parce que, du coup, d'une certaine manière, Marine Le Pen serait un peu le franco-français. Et donc un impérialiste revanchard, et Marine Le Pen impérialiste revanchard, j'ai du mal avec ça. Donc bon, enfin, restons avec Marine Le Pen, puisqu'il est parti sur elle comme idée de candidate de Rassemblement National. Marine Le Pen s'appuie sur la menace extérieure russe et les divisions européennes pour justifier une consolidation autoritaire. Un référendum en mars adopte une sixième république qui renforce les pouvoirs présidentiels et limite l'influence du Parlement malgré des accusations de fraude. Des lois sécuritaires sont promulguées, expulsion massive de clandestins, restriction des libertés de presse et surveillance accrue des opposants, justifiée par la nécessité de contrer des violences de la gauche et les réseaux islamistes. La gauche, bien que réprimée, reste active. Des attentats revendiqués par des groupes issus des Frères musulmans interdits secouent Paris et Toulouse, tandis que des manifestations de LFI dégénèrent régulièrement en émeutes. Économiquement, les mesures protectionnistes stabilisent légèrement la situation, mais les banlieues où la répression des groupes islamistes s'intensifie et les zones rurales touchées par les inégalités demeurent des foyers de tension. Sur la scène internationale, la France maintient une position isolationniste, réduisant sa participation à l'OTAN et à l'UE, tout en signant des accords bilatéraux avec la Russie pour sécuriser ses approvisionnements énergétiques. Ce qui voudrait dire qu'il y aurait une bonne avancée de l'influence russe dans l'Europe de l'Est qui se retomberait sur les scénarios un petit, les plus maximalistes sur l'impérialisme revanchard russe. Cette posture affaiblit davantage l'Union européenne, désormais au bord de l'implosion, tandis que la menace russe plane toujours sur les pays baltes, sans conflit ouvert, mais avec une guerre froide larvée. Je pense que si on était arrivé jusque-là, l'UE aurait déjà implosé, mais voilà. Et sa conclusion, c'est ça. Ce scénario révisé intègre pleinement les conséquences des ajouts de 2026, montrant une France confrontée à une crise multidimensionnelle qui amplifie la polarisation et facilite une dérive autoritaire. Les progrès russes en Ukraine et les tensions entre les pays baltes dans les Pays-Baltes, pardon, exacerbe les divisions européennes, tandis que la violence accrue de la gauche et des groupes islamistes radicalise le climat intérieur. La victoire de Le Pen en 2027 dans ce contexte explosif conduite à une consolidation autoritaire en 2028, mais sur des bases fragiles, avec une société fracturée et une Europe affaiblie. Voilà donc ce que Grok nous dit de ce à quoi devrait ressembler la révolution, et je trouve ça vachement intéressant. Je trouve ça vachement intéressant, pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est l'historionomie qu'on a fait là. On n'a pas demandé à Grok, dis-nous quelle va être l'évolution de la France dans les 5 prochaines années. Et on n'a même pas demandé à Grok, par exemple, si une révolution devait avoir lieu aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait dans les 5 prochaines années? Non, ce qu'on a fait, c'est que d'abord, on a trouvé le moyen de lui faire intégrer, de lui faire admettre et détailler relativement le modèle de la révolution normale. On lui a fait analyser comment c'était applicable à la France aujourd'hui. On a vu que ce n'était pas applicable avec les mêmes critères de radicalité, par exemple, mais sous une forme atténuée. Très bien. Et sur cette base, on lui fait faire un scénario, et on réajuste les endroits sur lesquels il semble trop optimiste, notamment quand on connaît l'évolution de l'actualité chaude et ce que ça pourrait faire comme évolution. Et donc sur cette base, on lui fait appliquer en fait les modèles. Et c'est les modèles qu'il a appliqués et il nous a donné ce scénario. C'est le genre de truc que moi, avant, il m'aurait fallu des jours pour préparer le scénario comme ça, pour y réfléchir, pour l'écrire, etc. Là, je l'ai fait tout ce travail-là, je l'ai fait en 2, 3 heures en fait avec Grok. Et vous voyez que ça permet d'obtenir un scénario intéressant, plausible et qui colle parfaitement au modèle. C'est ça qui est extrêmement intéressant et qui colle parfaitement au modèle, tout en collant, en étant cohérent avec la réalité de ce qui se passe en France et pas en disant voilà, ça sera forcément une révolution aussi violente que la révolution de 1789 ou la révolution en Espagne. Et donc non, non, c'est atténué, donc en mesurant tout ça, ça donne un scénario que je trouve vachement intéressant, vachement cohérent. Alors quand je dis c'est l'avis de Grok, c'est plutôt l'avis de l'historionomie grâce à Grok, si vous voulez, hein, naturellement. Mais ça permet de trouver quelque chose de cohérent. Et encore une fois, moi ce que je voulais faire ce soir, c'était voir un petit peu mieux où on a été. J'étais parti pour ça. J'étais pas parti pour le faire par Grok. Bon, je l'ai fait avec Grok en réalité. Mais déjà, je pense que l'exercice était intéressant et le résultat est très intéressant. Parce que le résultat qu'il donne est quelque chose de plausible et plutôt dans l'ordre du genre de choses que j'imaginais depuis quelques années. Ce qui est normal, puisque moi je l'imaginais sur la base des modèles, j'ai demandé à Grok de l'imaginer sur la base des modèles. Donc forcément, ça tombe pas très loin. Mais voilà, je trouve ça intéressant. Bien sûr, il y aurait d'autres choses à faire. Par exemple, si je devais prendre le temps de faire d'autres choses, je prendrai le temps de lui faire comprendre que l'Europe elle-même est à la veille, peut-être moins avancée, mais à la veille aussi d'une révolution nationale. Peut-être que l'Allemagne aussi, hein, puisque je renvoie à l'émission que j'ai fait où je pense qu'il y a, il y a, il y a un risque aussi de ce côté-là. Je lui expliquerai exactement l'impérialisme revanchard russe, tout ça. Plutôt que de lui ajouter, si vous voulez, les précisions, regarde quand même la Russie, intègre telle hypothèse, je lui ferai plutôt comprendre qu'est-ce qui amène à cette hypothèse que je lui demande d'intégrer, en fait, pour qu'il la visualise lui-même et qu'il la calcule et qu'il puisse me donner plusieurs scénarios différents. Voilà. C'est tout ça que j'aimerais faire de plus. Je n'ai pas eu le temps de le faire aujourd'hui, mais je pense que c'est déjà pas mal. Mais donc, j'ai trouvé un moyen de l'utiliser comme assistant véritablement intéressant pour en sortir un contenu sympa parce que je m'apercevais, c'est vrai que ça pouvait être un peu frustrant pour vous, c'est pour visualiser, c'est toujours intéressant de voir un scénario. Et là-dessus, je m'apercevais souvent, j'arrivais à la fin de mes émissions, je vous avais fait l'exposé théorique, j'étais un peu à sec pour imaginer le scénario en détail. Donc je donnais quelques idées, mais là, c'est quand même plus intéressant, je trouve, c'est plus nourri, c'est plus charnu et ça permet, si vous êtes passé à côté un peu de l'idée théorique qu'il y avait, de voir effectivement, de visualiser le genre de choses auxquelles il faut s'attendre. Et donc, je pense que c'est extrêmement intéressant. Donc, je referai cet exercice, je vous dis, j'essaierai de le compléter avec d'autres paramètres. Ben pour moi, ça confirme que ce scénario du changement de régime n'est pas absurde. Alors, on notera que dans son scénario à lui, à aucun moment il y a de démission d'Emmanuel Macron. Bon, il ne l'a pas mis. J'aurais pu lui demander de me d'insérer ça, comme un moment. Par exemple, le fait qu'il y ait véritablement une élection présidentielle anticipée, par exemple. On aurait pu. Mais vous pourrez le faire encore une fois, parce que je vais vous mettre en lien de la discussion, et donc vous pourrez la poursuivre de votre côté en lui posant de nouvelles questions. Mais voilà. Voilà ce que nous dit Grok sur la Révolution française, d'après les modèles historiognomiques. En admettant les modèles historiognomiques, Grok considère effectivement que les premières étapes sont déjà visibles, de manière atténuée, mais que donc il est probable que la suite aura lieu, et la suite sera pas forcément entièrement atténuée pour les raisons que j'ai dit plus tôt. Et donc, on peut avoir aussi un certain degré de radicalité. C'est ce qu'on verra dans les semaines et les mois qui viennent. Il est très probable que je referai prochainement une autre émission sur la France pour parler plus de ce qui se passe, mais je trouve ça intéressant parce que vous aurez au moins ce scénario en tête, en arrière-plan, pour dire voilà, je pense que c'est un bon scénario de référence à l'instant T. Encore une fois, vous pouvez enlever Marine Le Pen, mettre Jordan Bardella ou quelqu'un d'autre, ça pourrait être aussi Retailleau, parce que Retailleau, vous voyez, j'ai vu passer tout à l'heure sur Twitter une vidéo de Thomas Guénolé qui explique pourquoi Retailleau est d'extrême droite. Donc de toute façon, la gauche considérera aussi que Retailleau est d'extrême droite. Donc si jamais Retailleau devenait président de la République, je pense que ça ne serait pas très différent du scénario Marine Le Pen, hein, très, très franchement. Donc voilà, vous pouvez changer le nom, ça ne changera pas grand-chose sur le fond. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous avez été aussi intéressé à suivre cet exercice que j'ai été à le faire. Ceux qui étaient sur le Telegram avant-hier, enfin hier, naturellement, avaient déjà eu un aperçu de ça, mais enfin, ils n'avaient pas vu la totalité dans le détail, je pense, pour beaucoup. Donc, je pense que ça aura quand même été très, 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 très intéressant. Est-ce que, avant de nous séparer, puisque nous allons avoir ensuite un live privé des souscripteurs comme d'habitude, je vous rappelle que nous avons besoin de vos souscriptions pour nous encourager à continuer, ne serait-ce parce que c'est un rythme extrêmement fatigant malgré tout, hein. J'enregistre au total ouais, entre 3 et 4 heures de vidéo par semaine, hein, en fin de compte, depuis 3 ans maintenant. Dont une bonne partie, la moitié gratuite, libre d'accès. Et voilà, disons que depuis un an, le nombre des abonnés et des gens qui regardent les émissions ont nettement augmenté. Le nombre de gens qui nous soutiennent n'a pas vraiment suivi. Et voilà, si vous voulez vous décider à, si ça fait un an que vous êtes là, que vous êtes content de nous profiter du contenu, n'hésitez pas à nous soutenir pour permettre de poursuivre aussi les mouvements de croissance de la chaîne, les promos YouTube, etc. Et bientôt l'arrivée de nouveaux formats aussi. Ça fait 2 ans qu'on a mis en place toute l'offre de contrepartie pour les gens qui nous soutiennent et qu'on est sur ce modèle-là d'émission. Cette fréquence, cet ordre avec les lives publics, lives privés, etc. Il est probable que ça va changer dans les mois qui viennent sur un certain nombre de plans. Je ne sais pas encore comment, on est en train d'en parler avec Léo. Peut-être quelque chose qui sera plus gérable, je ne sais pas. On va regarder, en tout cas, probablement pas avant le congrès, mais peut-être avant. C'était en juillet qu'on avait fait les changements la dernière fois. Peut-être que ça sera comme ça cette fois-ci aussi, je ne sais pas. Enfin, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas. Il y a Tipeee, il y a Rejoindre sur YouTube. Vous pouvez avoir accès à entre 4 et 6 heures de contenu supplémentaire par mois, donc c'est quand même pas une paille.
Excuse-moi, je rigole en même temps, parce que je voulais dire, tu sais, genre, on va faire une grande annonce au congrès, tu sais, et je nous imaginais, tu sais, cette vidéo extrêmement cringe des boss de Microsoft qui dansent sur scène, là. Tu
Ah,
connais cette vidéo ou pas? Je te
je me souviens
l'enverrai.
plus.
T'as Bill Gates qui est comme ça, là. C'est n'importe quoi, cette vidéo. Bah, c'est nous au congrès.
D'accord.
On va afficher je sais pas quoi, tu sais. Ce sera pas mal. On remercie simplement Denis Patron G4 pour son don.
Merci
Il n'y a pas de
beaucoup,
question.
patron. Bien écoute, s'il n'y a pas de questions, on va se glisser dans notre live privé souscripteur. N'hésitez pas à nous y rejoindre. Si l'exercice vous a intéressé, mais que vous découvrez la chaîne avec celui-ci, ben, n'hésitez pas à faire un petit tour. Sur la Révolution nationale, je renvoie à mon émission du 13 juillet 2024, où j'explique ce que c'est. Si vous voulez comprendre un petit peu mieux l'exercice de ce soir. Je vous dis à bientôt pour des nouveaux formats. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour favoriser l'algorithme, c'est ce qui est le plus efficace, mais aussi un pouce, pourquoi pas, vers le haut.